magazine de la Grande Matinale, c'est donc ce supplément que je vous propose tous les jours jusqu'à 10h avec Charline Vanhoenacker qui imagine un grand patron, président de la République, avec Daphné Burki qui vous présentera un premier roman. Et vers 9h30, le débat du jour, vous les entendez, ces actrices et ces chanteurs américains qui commencent à s'élever contre Donald Trump. Qu'en pensez-vous ? Grotesque ou indispensable ? Pour ou contre les artistes engagés ? On en discute tout à l'heure. Là, maintenant, c'est le grand portrait.
France Inter. La grande matinale. Sonia De Villers.
Thomas Coville remporte le trophée Jules Verne en battant le record du monde à la voile, 40 jours, 10 heures et 46 minutes pour ce tour du monde dont il rêvait. Imaginez cet homme pris dans des creux de 10 mètres et des soufflantes allant jusqu'à 100 km/h. Imaginez un trimaran de 32 mètres de long qui normalement vole au-dessus des flots. Imaginez la tempête Ingrid s'abattre sur les marins et manquer de déchiqueter leur fabuleuse embarcation. Imaginez un navire aux voiles colossales, 700 mètres carrés, j'ai bien dit 700 mètres carrés, obligé de s'incliner face à la colère du vent qui reprend le pouvoir définitivement. J'ai cru que les navigateurs défiaient la mer, c'est mal les connaître. Depuis 40 ans, Thomas Coville mène un combat de titans contre le vent. Un duel moral, physique, technologique, que le dieu des rafales a failli gagner cette fois-ci. Ce n'est pas un trophée que Coville vient de remporter, c'est la bataille d'une vie. Portrait numéro 82. Bonjour Thomas Coville.
Bonjour.
Bienvenue à Terre. Alors je l'ai, le petit panneau, si vous me regardez, le panneau du record, si vous me regardez en vidéo, je l'ai, je le brandis. Le précédent a été établi il y a 9 ans par Francis Joyon à 12h44 minutes, c'est ça ?
C'est ça.
C'est ça, voilà. Cette tempête, vous êtes encore dedans ? Cette tempête Ingrid ?
Oui, c'est vrai que... Oui. On en parle encore ensemble, puisque c'est un tour du monde,
ouais,
on était sept à bord, et quasiment Ingrid a pas occulté, mais en tous les cas, nous a fait garder ce souvenir indéfectible de cette rencontre avec, j'ai envie de le dire, avec cette femme, avec
ouais.
Ingrid, qui nous a bousculé, qui nous a presque...
Qui aurait pu déchiqueter le bateau.
Qui aurait pu tout arrêter. On avait fait un tour du monde, malgré tout, déjà, contre des...
Mouvementé.
Oui, on a eu des conditions difficiles. Et là, à 2 jours de l'arrivée, tout peut basculer. Et il faut basculer, finalement, aussi dans le sens marin. Il faut être capable de voir ce qu'on va réussir à faire avec...
De réduire la voilure pour pas tout arracher.
D'infléchir notre route et de ne pas aller directement vers Ouessant, qui était effectivement l'arrivée, et de gérer avec les éléments comment on allait passer à travers cette énorme tempête.
Mais vous avez perdu des morceaux du bateau ?
On a perdu des morceaux du bateau. Et on a perdu effectivement beaucoup plus en 15 heures que pendant les 40 jours avant.
Rostropovitch.
Oh.
Je voudrais que vous nous fassiez comprendre, Thomas Coville, le niveau sonore d'une course à la voile, le niveau sonore dans lequel vous baignez H24, en réalité. On ne se rend pas compte du bruit qu'il y a sur un bateau.
Alors, c'est tout sauf Rostropovitch. C'est vraiment... c'est des sifflements, c'est beaucoup de... En fait, c'est lié... Nous, on barre ou on gère un bateau comme Sodebo à l'oreille. C'est une espèce de gros violoncelle, certes, mais avec des mouvements très violents. Chaque mouvement est doté d'un son. Un son va nous donner finalement un choc, va nous éclairer sur si on est bien réglé, pas bien réglé. Et notre oreille, à tous les sept, est accordée à tous ces bruits, à tous ces sons. Et c'est d'une attention permanente. Et ça monte, ça descend, ça hurle, ça siffle, ça frappe, ça devient assourdissant et on pourrait en devenir fou.
Les quelques heures de sommeil qu'on peut s'accorder, c'est dans ce bruit terrifiant,
ouais.
C'est dans le vacarme permanent.
Ouais, et même quand on dort, effectivement, alors on a tous équipé avec des bouchons d'oreilles et individuels, mais on est tout le temps attentif à ce bruit, ce qu'on donnerait tout.
Pour qu'il s'arrête.
Pour une minute de silence.
De silence.
C'est...
Et donc le retour à terre, le retour au silence.
Ouais, c'est ça. Le retour à terre, c'est finalement de s'écarter un peu, de marcher dehors sans bruit, de s'arrêter, d'écouter le silence. C'est revenir à un apaisement. Parce qu'en fait, chaque bruit, c'est l'angoisse que tout peut s'arrêter et que tout... on peut tout perdre d'un seul coup. Et à la fois, c'est la poésie de cette course au large, c'est que c'est suspendu autour de ce qui va arriver dans quelques secondes et qui peut...
Mais ça veut dire que c'est une expérience à la fois sensorielle et intellectuelle, et que les deux sont profondément mélangés. Ça signifie que quand vous pilotez en course, c'est tous vos sens qui sont totalement aiguisés et qui guident vos décisions de navigateur.
Et j'ajouterais collective, c'est-à-dire que on a une histoire différente les uns les autres, on est venu pour une histoire différente chacun les uns des autres, et on s'aperçoit au bout de quelques jours, parce qu'il faut quelques jours, qu'on entend, qu'on écoute et qu'on vit la même chose à sept. C'est vraiment, et on est dans cette expérience sensorielle ensemble, on est capable de se dire, t'as entendu ? Oui, j'ai entendu. Ouais, il est là le bruit, il vient de là. Et à la fois, c'est ça qui va nous aider techniquement à aller plus vite, c'est ça qui va nous aider physiquement à créer un mouvement qui va être restitué après sur le bateau, qui va se mettre à décoller, à voler, et d'utiliser effectivement l'énergie de l'eau, l'énergie du vent, et cette émotion, parce que ça devient une émotion, cette sensation qu'on a. Un athlète, c'est émotion, sensation, mouvement. Et on crée ce mouvement à 7, grâce à effectivement cette alerte dans laquelle on est en permanence.
Écoutez le journal d'Antenne 2, 1993, Bruno Perron vient de boucler le tour du monde en 80 jours, et c'est un triomphe à l'époque.
Il ne faudra que 22 jours à Commodore pour doubler le cap de Bonne-Espérance. Une folle descente vers les enfers, vers les mers du Sud. Ce catamaran en saute de vagues en vagues, l'eau s'engouffre entre les deux coques. Pendant un mois, les cinq marins vont vivre des moments d'angoisse. Par fax, Perron raconte le cauchemar, le catamaran géant qui enfourne, mais qui ne rompt pas. Le 25 mars, c'est enfin le cap Horn. On revient de l'au-delà, dira Bruno, qui ne pense plus au record mais à rentrer sain et sauf. Fini les moyennes journalières à 25-30 km/h. L'araignée géante remonte vers l'hémisphère nord. Mais le 10 avril, l'équateur juste franchi, c'est un couple de cachalots qui vient heurter et fissurer la coque bâbord. Heureusement, les cloisons étanches tiennent bon et le record est toujours d'actualité. Cinq jours plus tard, c'est une bille de bois qui se met en travers de Commodore. Coup de gueule de Perron, la mer est une poubelle. Mais la mer va lui apporter sa plus grande joie de marin lorsqu'il va franchir la ligne tout à l'heure.
C'est vos tout débuts ? Vous étiez préparateur de cette course ?
Exactement, c'est pourquoi je suis très ému d'entendre ça, parce qu'effectivement, dans ma vie de jeune homme, et après dans ma vie de marin, tout part de là. Je suis préparateur de cette épopée, parce que c'est vraiment une épopée. On était déjà pionniers à l'époque. Et Bruno aura la maladresse de me dire à la fin, mon concept c'était les 5 doigts de la main, mais on aurait dû partir à 6. Et j'étais le remplaçant qui n'est jamais parti.
N'était pas à bord.
Qui n'était pas à bord, et je suis resté à terre. Et oui, c'était 80 jours, c'était incroyable.
Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'époque, ce bateau-là, il flotte. Il navigue. C'est un bateau archimédien qui joue avec la poussée d'Archimède, c'est-à-dire le poids sur la mer. Aujourd'hui, votre bateau, il vole, il ne touche presque plus l'eau.
En fait, on s'est rapproché d'Icare. Et maintenant, grâce à...
Vous savez comment il a fini, Icare.
Oui, mais on
en parle.
On est quand même assez loin du soleil. On est encore assez loin du soleil.
Ouais.
Mais c'est vrai que maintenant 5-6 ans, et cette génération de bateaux, cette génération d'athlètes, les 6 garçons qui étaient avec moi sont issus de cette génération des bateaux volants et des pilotes volants. On a d'ailleurs un vocabulaire complètement
aéronautique. Les mots ont changé, les mots de la mer ont changé.
Ouais,
ce sont devenus les mots du ciel. Vous êtes devenus presque des aviateurs.
On a plus de vocabulaire maintenant d'aviateurs que de marins, je dirais, de l'époque de Bruno Perron à l'époque. On parle de vol stable, on parle de trim, on parle plus que de gîte. Et tout est orienté vers l'obsession de faire voler le bateau, l'émotion de faire voler le bateau. Quand vous avez décollé une fois avec un bateau, c'est pour moi la même émotion que le jour où on vous laisse partir à vélo sans les petites roulettes. C'est inscrit dans votre cerveau comme quoi la liberté commence là. C'est, ça y est, vous avez exactement, vous êtes extrait de l'apesanteur de votre corps qui vous pèse et qui vous fait flotter, certes, mais qui vous pèse. Et là, les aviateurs disaient souvent, il y a les volants et les rampants. Je dénigre absolument pas les gens qui rampent, mais il y a vraiment cette sensation et cette émotion.
Est-ce que vous avez un jour aimé la mer ? Je vous pose la question, parce qu'en réalité, j'ai retrouvé des interviews de vous-même très anciennes, et c'est jamais la mer, c'est jamais l'eau dont vous parlez, c'est toujours du vent dont vous parlez. Vous étiez fait pour voler, bien plus que pour naviguer, non ?
Ouais, je pense parce que d'abord j'en ai peur.
De la mer ?
Mettre la tête sous l'eau, c'est déjà quelque chose qui m'effraie.
Vraiment ?
Je suis pas du tout à l'aise en tant que en la natation, c'est pas du tout. Alors que effectivement, la première émotion que j'ai eue de petit garçon, c'est le vent sur mon visage, celle qui passait dans mes cheveux, c'est le vent apparent que je ressens. C'est effectivement, je suis complètement. Dès que je regarde dehors, c'est le vent que je regarde. C'est j'ai cette relation, oui, sans doute bien plus forte avec le monde aérien que le monde sous-marin, ou en tous les cas le monde flottant.
Rostropovitch, pour qui vous avez une immense admiration, et son violoncelle. On a dit qu'il était le violoncelle du siècle, du XXe siècle. C'est Schubert. C'est Thomas Coville qui est sur France Inter, à qui je fais écouter Schubert, parce qu'il n'a pas écouté de musique pendant 40 jours, 10 heures, 45 minutes et 50 secondes à bord du Sodebo Ultime 3. Je voudrais qu'on parle des renoncements. Une vie de grand navigateur, obsédé par les records et les tours du monde, c'est aussi une vie de renoncement. Une vie de ratage, d'erreur, de déception, de défaillance, d'échec. Est-ce que, comment dire, c'est là qu'on apprend le mieux, c'est là qu'on apprend le plus ?
C'est là où j'ai appris. C'est là où je me suis exposé. C'est là où je me suis fait très mal. Mais j'aurais envie de dire, aujourd'hui, les six athlètes qui étaient avec moi m'ont permis peut-être de dépasser le fait qu'il fallait se faire mal pour arriver à ça, puisqu'ils m'ont fait beaucoup de bien. Et ils m'ont aidé à grandir et peut-être effectivement laisser ces années de renoncement, ces années quelquefois de douleur. Je disais ça souvent, j'étais un papa qui rentrait souvent avec les bottes lourdes.
Un papa à terre
qui avait échoué, qui avait raté.
Vous avez deux enfants.
Qui rentrait souvent avec cette déception, avec le fait d'avoir tenté, osé, et finalement d'être passé quelquefois pas grand chose, mais ça n'avait pas fonctionné ou ça.
Il avait fallu faire demi-tour.
Chercher effectivement à chaque fois à comprendre, apprendre et recommencer. J'ai toujours été un petit garçon lent et pour autant avec la pugnacité, ça finissait par passer 49 jours 3 heures, c'était le record que je rêvais d'avoir en solitaire et qu'on a eu aussi avec Sodebo. Là, ce record en équipage, le fait qu'il ait été avec ses 6 autres garçons, je pense que j'ai passé finalement... peut-être comme avec la musique, ce moment de la joie, en fait, où vous basculez Et ça aurait pu tout s'arrêter avec Ingrid à quelques heures ou à quelques jours, mais ce qu'on avait traversé ensemble me permettait déjà d'être victorieux humainement dans nos rapports, dans ce qu'on avait créé collectivement.
Est-ce que ça signifie aussi, Thomas Coville, que ça peut être dangereux de ne se nourrir que de ses échecs ? Est-ce que ça signifie que psychologiquement, se nourrir d'expériences qui ont été très violentes et très négatives, eh ben, ça peut conduire à échouer à nouveau ? Et est-ce que, en fait, la volonté de revanche, pour ne pas dire la volonté de vengeance, elle n'est pas toujours un bon moteur ?
Alors, avec la nature, il ne peut jamais y avoir de vengeance. La nature, elle est... c'est le thème de l'existence avant l'essence ou l'essence avant l'existence. La nature, elle est. Elle ne vous juge pas, elle ne vous regarde pas. Elle n'est pas agressive ou méchante, même si quelque part on pourrait presque le
vous n'êtes pas Ulysse qui défie les dieux.
Pas du tout.
Pas du tout.
Mon épouse n'est pas Pénélope non plus. Ce n'est pas. Enfin, j'aborde pas ça du tout dans cette philosophie là. Et j'ai largué les amarres de cette effectivement. Cercle qui serait vicieux, qui ne servirait jamais à s'élever, à s'améliorer ou à grandir. Mais c'est vrai que je pense que si on reste trop longtemps seul dans cette soit introspection, soit dans cette exigence, soit dans ce gnotiséoton qui a construit quasiment toute notre philosophie, le « connais-toi toi-même » grec. Moi, j'ai été éduqué comme ça, et je pense que ça peut, à un moment donné, devenir quelque chose de dangereux, ou en tous les cas, qui n'est pas toujours très sain psychiquement. Et il faut se faire aider, et il n'y a que l'autre qui peut aider à ça. Mmh. Il n'y a que cette conversation au retour, ou cette conversation que j'ai eue là pendant, qui fait que finalement, l'enfer, c'est tout sauf les autres.
Et puis, il y a aussi l'histoire de trois femmes. Donc, il y a Ingrid, qui a failli vous déchiqueter et briser votre rêve. Mais il y a l'histoire de trois femmes, dont les parents étaient charcutiers traiteurs en Vendée. Les parents qui ont créé Sodebo, donc, qui aujourd'hui est un géant hein, de l'agroalimentation, et qui vous accompagne depuis presque 30 ans. Ces trois femmes-là qui pilotent l'entreprise de leurs parents et qui vous font confiance depuis 30 ans. Ça signifie qu'à chaque demi-tour, à chaque renoncement, à chaque échec, elles ont été là et elles ont continué de financer un bateau, un rêve et un combat.
C'est merveilleux ce que vous dites, parce qu'effectivement, la permanence dans le temps qu'ont eu ces trois femmes à mes côtés a construit cette histoire. Et cette histoire, effectivement, je leur dois à L3, chaque fois de façon différente, mais par leur regard sur moi, la résonance que ça avait de recommencer, jamais pareil. Et à plusieurs reprises, elles m'ont effectivement plusieurs fois dit « on peut pas continuer comme ça, il faut que tu progresses, toi ». Elles m'ont amené dans ce... D'ailleurs, dans le fait de me faire aider, ces trois femmes ont aidé à cette résilience. Mmh. Ces trois femmes sont aujourd'hui... mon obsession, c'est de les représenter et d'être capable de crier ce qu'elles veulent donner comme sens à une entreprise de l'agroalimentaire, qui est souvent... c'est pas cette image-là qu'a l'agroalimentaire.
Ah ouais.
Et en fait, à travers ces trois femmes-là, je représente effectivement un projet qui donne du sens, un projet qui donne sa chance, un projet qui effectivement... alors 40 jours, vous allez me dire, c'est rien et c'est beaucoup, mais... Moi, c'est ce que j'ai porté depuis 27 ans à leur côté. C'est ma plus grande et plus belle fierté.
Je cite tous les autres. Benjamin Schwartz, Nicolas Troussel, Pierre Le Boucher, Guillaume Pirouel, Léonard Legrand, Frédéric Denis. Puis il y a eu aussi trois routeurs très importants. Philippe Legros, Simon Fischer, Chris Bedford. Voilà le succès du Sodebo Ultime 3. Merci beaucoup, Thomas Coville, d'être venu sur France Inter.
Merci beaucoup.
Ça valait le coup de faire encore un peu de bruit. Vous qui n'aspirez plus qu'au silence. Vous restez avec nous pour la suite de la grande matinale. Vous êtes dans le mag de la grande matinale, vous êtes dans les années 80 avec les Anglais de The Jam. Et nous sommes ensemble jusqu'à 10h, à 9h45, Charline Fanonecker.
Bonjour la France Inter. 6 Français sur 10 sont favorables à ce qu'un grand patron d'entreprise dirige la France. Mm-hmm. C'est un sondage qui est paru dans la Tribune dimanche, et ça n'a rien à voir avec le fait que le journal soit dirigé par un grand patron, bien sûr.
Bah non, pas du tout. Daphné Burki, bonjour.
Bonjour, bonjour, à 9h50, ma nouvelle tête s'appelle Christopher Lacquier. Il est philosophe, chroniqueur littéraire, suivi par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux où il parle de livres chaque jour comme une question de survie. Aujourd'hui, il publie son premier roman, il faut absolument que je vous le présente.
Hâte. 9h29 sur France Inter, c'est l'heure du débat du jour.
I feel really like we just need to keep fighting and speaking up and protesting and our voices really do matter and the people matter and fuck ICE is all I want to say. Sorry.
Fuck ICE, s'exclame Billie Eilish cette nuit à la cérémonie des Grammy Awards. Bad Bunny y a été aussi de son sacré coup de gueule anti-Trump comme Bruce Springsteen et Natalie Portman la semaine dernière. Mais acteurs et chanteurs sont-ils légitimes dans ce rôle d'opposants politiques ? Leurs prises de parole sont-elles décalées, voire choquantes dans la position de ces gens qui sont très privilégiés ? Il y en a que ça agace, il y en a d'autres que ça galvanise, alors je pose la question. Pour ou contre les artistes engagés.
France Inter, la grande matinale, Sonia De Villers.
Et j'ai le plaisir d'en discuter ce matin avec Pierre Valentin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes essayiste, vous êtes fondateur du média Transmission, auteur de ce petit livre « Comprendre la révolution woke » qui est paru chez Gallimard. Face à vous, la neuroscientifique Sama Karaki, bonjour.
Bonjour.
Vous faites paraître l'ouvrage « Contre les figures d'autorité » aux éditions Rue de l'Échiquier, on va en causer. Julien Doré déclarait il y a très peu de temps chez nos confrères d'RTL, c'est très délicat, hein, je reprends ces mots, quand on est aussi privilégié que nous le sommes, attention à ne pas donner des leçons aux gens qui nous écoutent, parce qu'ils en reçoivent déjà à longueur de journée. Pierre Valentin, vous vous retrouvez plutôt dans la position de ce Julien Doré, les artistes, de fait, oui, sont des privilégiés, et dans un contexte, on va dire, politique aussi tendu et géopolitique aussi complexe, parfois il ferait mieux de se taire.
Je pense que vous avez raison d'insister sur le contexte. Je pense que le contexte dans lequel nous sommes, qui conditionne la réponse à la question « Les artistes doivent-ils s'engager ?», qui sinon ferait un peu trop bac de philo, c'est un contexte triple. Le premier, c'est un contexte populiste, c'est-à-dire un contexte dans lequel il y a une détestation des élites. Je vais donner un chiffre. En janvier 2016, il y a 10 ans, l'IFOP sondait les personnalités publiques de la vie politique française. Et à l'époque, on avait une dizaine de figures qui étaient au-dessus des 50% d'appréciation.
Ouais.
10 ans plus tard, on n'en a aucune. On est à 0% des hommes politiques français au-dessus des 50%. Deuxième élément de contexte...
On appelle ça le dégagisme.
Le dégagisme, exactement.
Voilà.
Deuxième élément de contexte, l'individualisme, dans le sens où, aujourd'hui, toute figure qui viendrait sermonner sur quoi que ce soit est mal perçue. Et on voit que les seules autorités, d'ailleurs, qui résistent aujourd'hui, c'est celle du coach, du psy, c'est-à-dire des personnes qui, en quelque sorte, évitent leur position d'autorité pour dire à l'individu « je vais vous aider à devenir davantage vous-même, mais moi je vous donne pas d'ordre, je ne moralise pas ». Et ensuite, troisième élément de contexte, une droitisation sur le plan électoral. Donc, quand on combine tout ça et qu'on a des artistes, donc une forme d'élite, qui disent aux gens quoi penser et qui sermonnent, sur une ligne qui, aujourd'hui, est moins populaire qu'elle pouvait l'être il y a encore 30-40 ans, on a une sorte de strike de tout ce qui passe mal auprès de la population. Donc je pense que dans ce contexte, c'est des discours qui passent très mal.
Complètement contre-productif,
absolument.
Par exemple, c'est-à-dire
au sens où, on peut dire qu'il y a deux constantes dans la vie publique française, dans une moindre mesure américaine que je connais moins, qui est des tribunes d'artistes engagés depuis des décennies, d'un côté, et de l'autre, une augmentation du potentiel électoral, du FN devenu RN, et de partis, disons, de droite contestataire au sens large. Et donc, c'est tout de même, je dirais, une
corrélation... C'est vrai que le soutien massif d'Hollywood, ou de la sphère, hein, on va dire en général de l'entertainment américain, à Hillary Clinton, n'avait pas du tout empêché de faire élire Donald Trump, idem avec Kamala Harris.
Tous les acteurs des grands Avengers Marvel lors de la dernière campagne présidentielle américaine s'étaient prononcés contre Donald Trump.
Absolument tous.
Donc à ce moment-là, on a vraiment tout essayé. Je veux dire, ça n'a pas suffi.
Sama Karaki, vous pensez-vous que les artistes engagés renforcent un sentiment anti-élite et donc en fait nourrissent exactement ce à quoi ils s'opposent ?
Alors les artistes ne sont pas élites par nature, Ils ont été validés, ils ont été visibilisés par des structures médiatiques, économiques et culturelles. Et si
les hommes politiques ne sont pas des figures d'autorité par nature, ils ont été élus.
Bien sûr. Donc s'il faut se poser la question de est-ce qu'il faut écouter les artistes, hein, ce n'est pas parce qu'ils créent, ce n'est pas parce qu'ils ont une justice morale ou une précision morale, c'est parce qu'on les écoute. Donc ils occupent un espace d'attention et cet espace, il n'est pas pour autant légitime, mais il serait plus efficace. Donc c'est de là où la responsabilité naît, que si je suis si la lumière elle est sur moi, donc il y a une responsabilité de ce que je prononce et de ce que je modélise dans mon mode de vie. Après cela donc
c'est-à-dire je vous arrête un instant parce que c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que pour vous il n'y a pas, on va dire, de succès public, de notoriété sans influence, et il n'y a pas d'influence sans responsabilité. La responsabilité va avec.
Bien sûr, il y a un privilège qui vient du fait que l'attention, elle est centrée sur soi. Et ce privilège, il a un prix qui est de se positionner politiquement. D'ailleurs, le silence aussi, c'est une position politique qui est d'ailleurs un choix très confortable. Mais ça veut dire que de choisir de ne pas s'exprimer, comme le dit Julien Doré, c'est de ne pas questionner les systèmes qui le sacralisent. Parce que finalement, il est visible parce qu'il a été sacralisé par des systèmes, tout en choisissant d'être traité comme un citoyen ordinaire quand ça l'arrange. Donc, il y a aussi un paradoxe de ne pas réfuter.
C'est-à-dire, je prends la lumière quand elle me fait vendre des disques et des tickets de concert.
Voilà.
Et puis, je reste tranquillement comme un citoyen lambda dans mon coin quand il s'agit de s'engager et d'assumer ses responsabilités.
Complètement. Donc, quand on a été érigé comme élite, il y a une responsabilité qui naît de cette position. Après, bien sûr, je l'interroge. Donc, par contre, je n'interroge pas les figures et les personnes, j'interroge les systèmes qui sacralisent
Bien sûr.
Les systèmes qui concentrent l'attention.
Bien sûr, mais vous dites, par exemple... se taire, c'est validé. Se taire, c'est cautionné d'une certaine manière.
C'est accepter ce système, d'abord, de ne pas le questionner. Qui érige des élites, avec lesquelles je suis d'accord qu'on doit aussi interroger pourquoi il y a des voix invisibilisées et d'autres qui sont visibilisées. Mais reste que,
Pierre Valentin,
on est dans l'attention, on s'exprime.
C'est intéressant parce que vous dites, à l'inverse de Sama Kamaraki, qu'au contraire, c'est de plus en plus responsable de ne pas parler. C'est de plus en plus responsable de la part des artistes ou des systèmes de production, on va dire, du divertissement et de la culture, de se mettre en retrait.
Je pense que la dernière fois que la question s'est posée concrètement de savoir si les artistes devaient s'engager lors d'une élection en France, ça a été lors de la dernière grosse élection française que furent les législatives de 2024. Mm-hmm. Et à ce moment-là, a été rédigée une tribune absolument remarquable dans Libération par la metteuse en scène Ariane Mnouchkine, dont je voulais vous lire un extrait parce qu'elle me paraît très juste. Elle expliquait, elle s'attendait à un désastre électoral, et elle disait « Je nous pense en partie, nous, responsables, nous, gens de gauche, nous, gens de culture, on a lâché le peuple, on n'a pas voulu écouter les peurs, les angoisses, quand les gens disaient ce qu'ils voyaient, on leur disait qu'ils se trompaient, qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils voyaient. Ce n'était qu'un sentiment trompeur, leur disait-on. Puis, comme ils insistaient, on leur a dit qu'ils étaient des imbéciles. Puis, comme ils insistaient de plus belle, on les a traités de salauds. » Et plus bas, elle termine en disant « Aujourd'hui, je ne suis pas certaine qu'une prise de parole collective des artistes soit utile ou productive. Une partie de nos concitoyens en ont marre de nous. » Marre de notre impuissance, de nos peurs, de notre narcissisme, de notre sectarisme, de nos dénis. Et je trouve que là, de quelqu'un de l'intérieur, il y a une sorte de lucidité tardive mais bienvenue qui permet de prendre conscience de la déconnexion sociologique qui, elle, je pense, est mal reçue. Je pense qu'il y a 40 ans, ce type de tribune, on se souvient de SOS Racisme, etc., où les artistes engagés, était moins mal reçu que ça ne l'est aujourd'hui. Mm-hmm. Je pense que dans le contexte aujourd'hui, c'est en effet contre-productif et c'est vouloir éteindre l'incendie électoral avec du pétrole.
Je vois ce que vous voulez dire, l'image est jolie, mais moi, c'est pas tout à fait ça ce sur quoi je vous interrogeais. C'est-à-dire que je vois bien comment on peut faire son devoir d'inventaire et battre sa coulpe, mais il y a aussi des artistes, des maisons de production, des labels qui n'ont pas envie de s'aliéner une partie bien du sûr. Public dans un contexte ultra polarisé. C'est sûr que Taylor Swift, si elle dit non à Trump, oui à Kamala Harris, comme elle a refusé de le faire si clairement que ça, elle se coupe de la moitié des Américains.
Tout à fait, et je pense que là-dessus, le bon exemple à prendre, c'est la question du cinéma français, notamment post-Covid. Le cinéma français a eu...
Ah bon ?
Une difficulté financière assez importante à cause du streaming et du Covid.
Ouais.
Et à la suite de ça, il y a eu deux types de films. Il y a des films pour des niches plus ou moins sociologiques, militantes, et qui parfois peuvent amortir des échecs commerciaux par la question de la subvention. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle le mass market, le marché de masse, dans lequel là, il faut savoir plaire à monsieur tout le monde. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu le cinéma français faire une sorte de recentrage, à faire des films patrimoine, à faire Le Comte de Monte Cristo, là on va adapter...
Des sujets qui ne fâchent pas.
Exactement, des sujets consensuels dans une société qui n'a plus beaucoup de sujets consensuels, Et je trouve que c'est une évolution en soi significative dans notre
lecture,
débat.
C'est votre lecture, je ne suis pas tout à fait sûre d'avoir la même sur le cinéma français, mais c'est intéressant comme point de vue. Sama Karaki, est-ce qu'il n'y a pas là un risque de transformer la guerre culturelle que nous vivons tous, justement, dans des opinions très polarisées, avec des débats très aigus, de plus en plus virulents, et une grande difficulté à s'écouter les uns les autres, de transformer la guerre culturelle en guerre contre la culture? Est-ce qu'on ne commence pas à sentir une sorte d'injonction à se taire quand on est un homme ou une femme de culture?
Non, je ne vois pas. La culture se transforme. Il n'y a pas d'ailleurs un effacement de la culture, mm-hmm. ce qui d'ailleurs fait partie d'une panique morale qui va généraliser des faits complètement singuliers.
Elle est où la panique morale ?
La panique morale, c'est de désigner un groupe comme celui des artistes comme étant portant une contestation qui vient menacer la fin, enfin signaler la fin de quelque chose, que ce soit la culture, que ce soit la civilisation, la liberté d'expression.
Or, en réalité, c'est pas un peu dangereux ça ?
Mais en fait, en réalité,
de désigner les artistes comme coupables à partir du moment où ils parlent, et ne serait-ce
plus,
que parce qu'ils sont artistes.
En plus, vous avez donné un exemple très intéressant, parce que les artistes qui contestent réellement ne sont pas visibles, ne sont plus rendus visibles. Finalement, si je reviens à la soirée d'hier, où je reviens à Taylor
Swift, les Grammy Awards cette nuit,
Taylor Swift
aux États-Unis,
ou DiCaprio, qui vont en fait, ils sont considérés comme des artistes engagés, mais en réalité, ils remettent jamais en question le capitalisme, ni culturel, ni fossile, dont d'ailleurs, ils sont les figures qui portent ces systèmes. Hier, Trevor Noah, il a interrogé...
C'est le présentateur de la
Le présentateur de la soirée, il a interrogé la question sur Greenland et sur la question sur Epstein. Et Trump, ce matin, déclare qu'il veut tenter un procès contre Trevor Noah, cette présidente de la République qui tente un procès. Donc finalement, cette censure, elle vient des institutions, elle vient du haut, elle ne vient pas du bas, ni des artistes. Les artistes qui se prononcent réellement ne font plus en fait partie de ceux qu'on invite
Pierre
et de
Valentin,
ceux qu'on célèbre.
Cette question de la censure, d'abord de l'auto-censure, parce qu'on ne se sent plus légitime, et puis étape 2, c'est pas qu'on se sent plus légitime, mais en plus on se sent accusé, on se sent montré du doigt, comme vient de le dire Sama Karaki. Est-ce qu'il y a d'abord une forme d'autocensure et puis après un risque de censure ?
Alors, à ma connaissance, je ne pense pas. La façon dont je le formulerai, c'est que les prises de parole de Julien Doré et également plus récemment de Benabar...
Oui, Benabar dans le Figaro aussi. Oui, oui.
Elles sont un petit peu inédites au sens où habituellement... On avait soit des artistes qui s'engageaient, quand on dit, pour le coup, artistes engagés, on aura peut-être un léger désaccord là-dessus. L'euphémisme, c'est de dire engagé à gauche, parce que lorsque l'artiste est engagé à droite, on ne dit pas engagé, on dit controversé, on dit polémique, on dit sulfureux. Et là, on a des artistes qui, soit avant, s'engageaient explicitement, soit dans un second temps, évitaient de parler. Et là, on a quelque chose d'un peu nouveau, qui sont des artistes qui disent aux autres artistes « Restez humbles quand vous prenez le micro ».
Benabar a dit aujourd'hui « Faire une chanson engagée, ça ne sert à personne ». Pour vous, un artiste polémique ou sulfureux, c'est un artiste de droite?
Je trouve que les mots sont assez intrigants là-dessus. Typiquement, quand Marshall, sur la question de la police, prend position...
Olivier Marshall, ancien flic, est devenu cinéaste.
Exactement, il reçoit, sur une position assez majoritaire, une volée de bois vert, et il est traité comme controversé, polémique ou sulfureux, c'est pas la même chose.
Enfin, donc en fait, c'est une parole de gauche que vous dites qui n'est plus la bienvenue, en fait, c'est ça.
Il y a une mutation, oui, électorale, symbolique, qui fait qu'on n'est plus dans les années 80-90, ça c'est sûr.
Je vais quand même préciser que c'est une inversion de la menace, parce que si ce que vous dites correspond à une situation historique qui a complètement bougé, le curseur de ce qu'on considère aujourd'hui comme étant visible et audible, mm-hmm. il a complètement été déplacé. Donc aujourd'hui, la parole la plus consentante au système, c'est celle qu'on entend le plus souvent. Donc, mais là, vous évoquez un cas qui est un cas précis qu'on ne peut pas généraliser, parce que, encore une fois, si je rappelle la liste de mots que Trump il a interdit d'être utilisé, c'est là, en fait, la vraie censure. Et ce qu'on considère vraiment comme étant sulfureux, comme étant inaudible.
Voilà,
donc, en fait,
pour...
l'inversion de la menace, c'est typiquement quand on craint que ce qui est considéré comme étant un pouvoir dans la société soit interrogé.
Sama Karaki, Pierre Valentin, pour ou contre les artistes engagés? Ce que j'aime avec ces petits débats, c'est que vous allez continuer d'en discuter toute la journée à la machine à café, et vous aussi vous reviendrez, parce que cette question, on n'en a pas encore fait le tour. Merci à tous les deux. On écoute Mickey, ça pique un peu quand même. C'est engagé, Mickey, c'est le choix musical de la grande matinale, et c'est la délicieuse Valentine Chedebois qui est à la programmation.
pisse dans ses yeux pistache et je peux pas m'y faire. Y'a des bots qui font tout à notre place, à partir un coup quand on a rien à faire. Sourire avec les yeux comme tu sais si bien le faire, bâtard. C'est le monde à l'envers, c'est moi qui me demande si je fais pas tout de travers. Mais j'arrive pas à lui plaire, j'essaie de trouver la femme, mais y'a rien à faire. Je raccroche mon tête, je me parle à moi-même, mais de fou, c'était ça que je voulais au début. Moi aussi, ouais, putain, trop bien. Être pote, c'est ça, ça tombe à pic. Mais c'est pic, 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 un peu quand même. Je cuisine pour une personne depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic, tic, un peu quand même. Pic, pic, ça me fout l'air. Mais c'est pic, 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 un peu quand même. Je cuisine pour ma pomme depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic, tic, un peu quand même. Célibataire de 30 balais. Quand ça sonne à ma porte, c'est pour voisin d'en bas. Et même quand c'est la pause, bossez jamais pour moi. Moi je suis là, j'ai des tailles, mais des lèvres dans le frigo. Y'en a un peu trop, je pensais que tu viendrais, mais je suis solo. Du coup, je reste dans ta friendzone. Mais c'est pic, 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 un peu quand même. Je cuisine pour une personne depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic, tic, un peu quand même. Pip, pip, ça me fout l'air. Mais c'est pic, 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 un peu quand même.
Mickey, eh ben la voilà, ça pique un peu quand même, elle n'est pas délicieuse celle-là. Il est 9h46, vous êtes sur France Inter, dernier quart d'heure du mag de la grande matinale. Alors pour terminer, Charline, Daphné Burki, la nouvelle tête de Daphné qui vient de s'installer au micro. Charline, d'après un sondage paru hier dans la Tribune du Dimanche, 6 Français sur 10 sont favorables à ce qu'un grand patron devienne président de la République.
Ouais. On peut faire un sondage dans ce studio, alors un grand patron pour diriger la France.
Bon.
Oui, on n'a jamais essayé. Oh ben voilà. Merci Daphné, bravo.
C'était constructif non, comme réponse, le MOF.
Et aux États-Unis, on voit que ça marche très bien en plus, vraiment. Ces derniers temps, plusieurs chefs d'entreprise s'impliquent dans le débat public et certains laissent planer le doute d'une candidature. Il y a Xavier Niel, patron de Free, Michel-Édouard Leclerc, patron des hypermarchés, Alexandre Bompard, lui c'est Carrefour. On n'est pas à l'abri d'un second tour Carrefour-Leclerc. Monsieur Bompard, vous n'avez pas le monopole du cœur. Du cœur, non. Mais le monopole sur la vente des clémentines corse à moins de 5 euros le kilo, oui. On peut se passer des ministres, là. On embauche des chefs de rayon. Mais alors, à France Inter, ça va encore nous foutre dans la sauce, cette affaire. Quand en pleine campagne électorale, un journaliste se fera choper en train de faire ses courses au Leclerc. Moi, je vais être complètement transparente avec vous. J'ai la carte du magasin concurrent, moi. Ah, moi, je suis encartée à Carrefour. Moi. Voilà, c'est dit, et j'assumerai devant la commission d'enquête. C'est sûr que l'Élysée, ça fait rêver les patrons. Hein. Ça fait d'un coup 68 millions de clients. Et si ça se trouve, on ne parlera plus de constitution, mais de conditions générales d'utilisation du pays. Et puis, on ne va plus parler d'expulser des sans-papiers, mais de régulation des stocks d'immigrés. Il faut dire que ça fait des années que c'est le MEDEF qui oriente les choix du gouvernement. Donc ça permet de supprimer les intermédiaires, et comme ça on gouverne en circuit court. On a tellement tout passé au grand patron depuis des années que maintenant, ça y est, ils veulent carrément diriger le pays. Quoi. Entre le milieu politique et le milieu économique, on n'est même plus au stade de la collision. De la collusion. Voilà, bah c'est les deux. On est sur une fusion, fusion-acquisition. Une fission, je dirais. Voilà. Alors Xavier Niel aussi, il aurait des ambitions présidentielles. Et ça, quand on voit le nombre de fois où Macron à débrancher, rebrancher le gouvernement. Je suis pas contre qu'un professionnel du secteur s'en mêle. Et Niel, il sait que gouverner, c'est pas très compliqué. Il suffit de mettre en place ce que demande Bernard Arnault. Et alors, coup de bol, Bernard Arnault, c'est son beau-père. Oh, et la vie est bien faite parfois, quand même. Justement, pendant ce temps, Jean-Luc Mélenchon, lui, est en pleine opération séduction des petits patrons, des PME. Voilà. Alors, ne nous emballons pas non plus. Quand Mélenchon tente de séduire, ça veut juste dire qu'il arrête de les engueuler. Voilà. Alors, si un grand patron devient président de la République, je vais pouvoir fusionner deux de mes passions. Donc,
Est-ce que je juge les vôtres, Sonia?
Non.
Non. Bon, bah, alors voilà, bah, respectez-moi, merci. Et puis il y a Mathieu Pigasse aussi qui laisse planer le doute. Ah, allez, bah, oui, encore un banquier d'affaires, ben oui. Allez, après le Mozart de la finance, le Che Guevara de la spéculation. Quand vous visez l'Elysée, oubliez les dents, hein, je sais pas, misez sur la BNP, je sais pas. Ou alors dans un hypermarché. Voilà. Parce que pour se présenter, l'argument de Leclerc ou de Bompard, c'est le pouvoir d'achat, bien sûr. Ne perdons pas de vue que leur métier, c'est de faire passer les Français à la caisse.
Hein. Oh, moi je n'ai qu'une chose à dire, rendez-nous Silvio Berlusconi en réalité.
Oh, bah, on en est là.
Oh, bah, on est là. Charline Van Honecker.
La grande matinale sur France Inter.
Daphné Burki. Et sa nouvelle tête.
Et il est 9h49, nous sommes en direct dans le studio de la grande matinale de France Inter. Et ce matin, ma nouvelle tête s'appelle Christopher Lachiez. Il est chroniqueur littéraire et aujourd'hui, romancier. Il est suivi par des milliers de personnes sur les réseaux sociaux, dont Charline Van Honecker.
Oui.
Où il parle chaque jour de livres comme d'une urgence vitale. Il publie enfin son premier roman, La Rosa Perdida, aux éditions Jean-Claude Lattès. Ma nouvelle tête a eu plusieurs vies en réalité. Il a quitté l'école à 16 ans, il est devenu danseur, puis tatoueur, puis bagarreur aussi. Il connaît la rue jusqu'au jour où il trouve sa maison dans un livre. Ça s'appelle « Penser pour moi-même » de Marc Aurèle, qu'il dit lui avoir sauvé la vie. Bonjour Christopher Lachiez, bienvenue sur France Inter.
Bonjour, merci beaucoup.
La phrase, il y avait une phrase hein, je crois en particulier qui vous a éclairé. « Ce qui fait obstacle au chemin devient le chemin », c'est celle-ci ?
Exactement, voilà, moi lorsque j'ai découvert Marc Aurèle, c'était entre le rayon philosophie, le rayon développement personnel et tout ce qui est cuisine. Je tire un livre par hasard, tombe les pensées pour moi-même et du coup j'ouvre ce livre et je me dis c'est dingue comment un empereur qui faisait partie des 5 grands et bons empereurs romains a pu réussir à avoir ou tenter du moins d'avoir la vie la plus juste possible. Et moi qui avais une vie absolument pas juste dans le sens où je faisais n'importe quoi,
voilà.
Je me disais il va falloir que je me trouve des règles. Et Marc Aurèle, en tout cas les pensées de Marc Aurèle m'ont aidé à ce moment-là.
Ouais, ouais, parce que votre vie, franchement, on pourrait croire à un conte quand on lit tout ce qui vous est arrivé avec comme antidote au poison de l'existence, donc les mots et la lecture. D'ailleurs, vous dites que les livres, c'est pas une culture d'apparat, mais des béquilles, des coups de poing, des rencontres qui déplacent une vie. Aujourd'hui, quand vous choisissez un livre et vous décidez donc de le présenter à des milliers de gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, vous pensez à quoi ? Est-ce que vous pensez à transmettre ? Est-ce que vous pensez à sauver, comme ce livre qui vous aurait sauvé ou vous étiez au bord du gouffre ?
Je pense avant tout à ce qu'il va transmettre. Je pense qu'on retient plus ce qu'on ressent en lisant un livre plutôt que ce qui est clairement dit dans le livre. En tout cas, lorsqu'on lit de la fiction. Et je trouve que le pouvoir de la fiction, c'est d'être capable de raconter le réel en parlant de tout sauf ce qui est réel. C'est ce que Vargas Llosa nomme le mentir vrai. Et là, pour le coup, lorsque je parle d'un livre, je parle avant tout de ce qui m'a touché dans ce livre, de pourquoi est-ce que ce livre-là, c'est pas qu'il mérite d'être lu, mais c'est que peut-être que cet auteur est moins connu, peut-être qu'il appartient à une culture qui nous est très éloignée. Et pour le coup, c'est intéressant pour les gens, et nous notamment, de découvrir des auteurs qui nous sont très éloignés, mais nous touchent pourtant de très près.
Et puis de vous découvrir vous, c'est marrant parce que quand vous êtes rentrée dans le studio, Sonia m'a dit oh « bah, je ne m'attendais pas du tout à ce que vous ayez cette tête ». Alors il faut que je raconte à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. En effet, vous avez quitté l'école à 16 ans, vous avez été danseur, vous avez été tatoueur. Vous pouvez imaginer son corps, il n'est pas à poil, hein. Mais je sens que vous êtes recouvert de tatouages, en tout cas sur les mains, sur le cou.
Ça dépasse de partout. Hein.
Ça dépasse de partout, il y en a même sur le visage. Ce n'est pas des larmes, il y a un petit chiffre, le chiffre 13 sur l'une de ses joues. Et donc aujourd'hui, vous êtes en effet chroniqueur littéraire. Est-ce qu'il y a eu un moment précis, puisque votre rapport il est tellement intime à la lecture, où vous vous êtes dit « waouh, ça y est, ça devient une responsabilité publique ».
Oui, à partir du moment où les gens m'ont clairement dit « j'ai commencé à lire grâce à toi parce que j'ai regardé ta vidéo, que je me suis intéressé et surtout que j'ai vu l'ampleur que pouvait prendre la littérature dans la vie de certaines personnes. Il y a vraiment des gens qui ont pu modifier leurs conditions, ils se sentaient vraiment mal et de lire de la fiction leur a permis de pouvoir passer à autre chose. D'autres qui ont pu se rendre compte de leurs propres conditions, de prendre conscience de qui ils étaient, de comment est-ce qu'ils fonctionnaient et encore d'autres de créer de la curiosité pour aller à la fois contre ses propres opinions et par ses propres opinions, et donc essayer de développer une forme d'esprit critique à travers et de la fiction et de la non-fiction. Et je trouve que cet impact énorme qu'a la littérature, qu'a les livres, est nécessaire dans notre quotidien, et que je tente à contribuer tant bien que mal à faire en sorte que les gens s'extraient des réseaux sociaux pour rentrer dans les livres en utilisant paradoxalement les réseaux sociaux.
Mais qu'est-ce qui vous a décidé à, ça y est, écrire votre premier roman ?
La passion, c'est-à-dire que ça fait longtemps que j'écris en réalité, sauf que j'ai toujours écrit par nécessité, c'était quelque chose de très vital pour moi, j'écrivais comme on respire et du coup j'avais envie à un moment donné de me lancer dans un projet de roman et cela à la suite du décès de mon meilleur ami il y a 2 ans. 2 mois après je perds mon père et 2 mois après un ami d'enfance, ce qui fait qu'en 6 mois j'ai enchaîné 3 pertes de personnes très 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 proches dans ma vie et ça a été un peu l'élément déclencheur, comme une forme d'ombre qui s'est créée en moi, une fêlure qui est venue toquer à la porte, qui m'a dit écoute, ça fait longtemps que je mature ici, à l'intérieur laisse-moi un peu de place pour pouvoir écrire quelque chose. J'ai cherché et j'ai trouvé ce qui m'était le plus proche et le plus intime, qui parle de ma famille, qui est la littérature latino-américaine.
Bon, c'est une sacrée aventure. Hein. C'est un livre entre Garcia Marquez et Isabelle Allende et Le Comte de Monte Cristo. On y va, c'est un roman tragique pour toutes celles et ceux qui rêvent de retrouver des grandes épopées romanesques. Il y a les questions de frères qui se déchirent, il y a des ponts qui explosent, il y a des hommes torturés dans les tréfonds d'un bordel sur les musiques de Boléro, il y a des femmes que l'amour n'épargne pas. Tous les personnages sont doubles. Jamais tout à fait du côté du bien, jamais tout à fait du côté du mal. Ils sont pris dans des dilemmes moraux et on a l'impression qu'en tout cas qu'ils ont tous un destin tragique et parfois profondément injuste. Est-ce que c'est votre conviction que finalement le destin il est profondément tragique ?
J'ai pas vraiment de réponse par rapport au destin. La seule chose qu'on sait lorsqu'on vient au monde, c'est qu'on va mourir. Et de cette condition-là, qu'est-ce que nous allons en faire ? En l'occurrence, la tragédie, là, pour répondre à ça, à pouvoir expier quelque chose en nous à ce moment-là, pouvoir essayer de prendre conscience de notre condition. Le truc que je voulais mettre en place, c'était plutôt mettre un Œdipe en Amérique latine, donc certaines formes de prophétie, et utiliser l'aspect onirique, l'aspect magique pour pouvoir parler du réel. Et tout ce que je dis à l'intérieur, tout ce qui se passe dans ce village qui n'existe pas vraiment, qui est un village ignoré des cartes, est en fait complètement réel, puisque je me suis inspiré de ce qui s'est passé pendant Pinochet au Chili, pendant Videla en Argentine, les coups d'état militaires, notamment Trujillo en République dominicaine, et j'avais envie d'utiliser une fiction qui parle de la réalité et qui est là pour parler du réel et le magique qui intervient, les fantômes qui reviennent taper à la porte ou autre, ne sont ni plus ni moins que les disparus qui reviennent hanter les vivants.
Est-ce que vous choisiriez un extrait ce matin ? Pourriez nous lire une petite page comme ça ?
Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. C'est dans cet environnement hostile et délicat que fermentaient les plaisirs enroulés de la Rosa Perdida, dont Sophia était la tenancière. Elle avait compris, bien avant tout le monde, que le malheur des hommes ne venait pas de leur solitude, mais de l'insupportable présence des autres, trop proches, trop bruyants, trop pleins d'eux-mêmes. Ceux qui entraient dans le bordel restaient anonymes, même si tout le village connaissait leur nom, leur voix, jusqu'à la manière dont ils frappaient à la porte. Une amnésie collective. On oubliait par respect, par honte, ou juste par fatigue. Et c'est ainsi que naquit la rumeur qu'à la Rosa Perdida, on se forgeait des souvenirs avec le privilège de les voir s'effacer avant que la porte ne se referme.
Ah oui, parce que Sophia, donc c'est la mère qui tient la Rosa Perdida, c'est un bordel qui est devenu aussi finalement un lieu de refuge pour des femmes, pour des opposants, pour des vies fracassées. Et puis il y a le fils, Mathias, qui grandit là, au milieu de la violence du monde, mais aussi de la puissance des histoires, et puis lui, il commence à écrire. Et un jour, il va montrer ses premiers textes à Sophia, et qui lui répond simplement « Jette-moi ça ». Et vous écrivez « Parfois, il suffit d'un mot pour dévier une trajectoire ». Il y a de vous dans tout ça ?
Il y a complètement de moi, puisque je suis né dans une famille qui n'est pas du tout latino-américaine. J'ai des origines colombiennes très éloignées, mais mon grand-père est malgache et je viens d'un côté de mon père paternel. Son arrière-grand-père était un exilé politique italien qui a dû s'exiler parce que son grand-père avait craché sur la photo de Mussolini en public. Et donc, il y a le côté révolutionnaire qui est inscrit sur mon visage, notamment à travers les tatouages, le côté rébellion. Et de l'autre côté, le côté onirique, quelque chose de légendes orales avec mon grand-père malgache qui est né à Madagascar et qui un jour, c'est une anecdote assez dingue qui s'est réellement passée, est venu chez mes parents. Il y avait toute une espèce d'ambiance assez onirique à la maison. Ma mère était fan de masques africains, vu qu'on était d'origine malgache. Et elle en avait mis partout dans la maison. Elle avait pris des anses avec des boucliers, des lances et des boucliers, pardon. Elle avait pris toutes sortes de choses. On en était envahis. Le problème, c'est que tout le monde tombait malade, tout le temps. tout le monde est tombé malade, moi j'ai perdu la vue d'un œil, ma mère a eu des gros problèmes de santé, mon grand-père a fait un infarctus, enfin ça a été le bazar. Un jour mon grand-père arrive, prend tous les masques, les met dans le jardin, les brûle en chantant des incantations et on a vu la fumée rester collée au ciel des jours durant. Et du coup je me suis dit, vu que j'ai grandi là-dedans, le côté légende, le côté onirique qu'on me racontait depuis tout petit en permanence, et bien lorsque je découvre la littérature latino-américaine, que ce soit Ron Rulfo, Garcia Marquez, Vargas Llosa et plein d'autres, je me dis c'est dingue comme on parle de ma famille. Et du coup j'ai voulu en parler aussi à
je
mon tour.
Je crois qu'on a tous besoin de votre grand-père s'il est encore de ce monde, il pourrait nous aider. On a tous des masques à brûler dans le jardin.
Il y a de tout ça et ce sont Sympathy for the Devil qui vous représente bien. Et j'avais envie qu'il vous accompagne pendant que vous racontez un morceau de votre vie. Ça s'appelle La Rosa Perdida, il s'appelle Christopher Lacchies. Ça se passe aux éditions Jean-Claude Lattès.
Et moi, j'ai le plaisir de vous annoncer et de remercier tous les garçons et les filles qui fabriquent cette grande matinale qui est réalisée par Maria Pasquet et par Christophe Humbert cette semaine. À la programmation, Charlotte Matou, Amélie Stadelman, Perrine Malinge, Mathilde Clatt, Joachim Taïeb, Capucine Aubert et Jean Brossier. À la documentation, il y a Juliette Drone, il y a Alexandra Brouillet, il y a Cléa Journeau. Et merci aussi à tous les standardistes de France Inter. C'est la fin du mag de la grande matinale. Ali Rebéi dans un instant.
Bonjour à toutes et à tous et ce matin on s'intéresse aux aidants, comment aider les aidants, ils ont besoin d'aide, les aidants ils sont 11 millions au bas mot à aider un proche atteint d'une pathologie, d'un handicap ou d'une perte d'autonomie. N'hésitez pas à témoigner sur votre vie d'aidant au 01 45 24 7000 sans oublier l'appli Radio France.
À tout à l'heure.